Good Morning Market, le club de la bourse.
8h39. Le club de la bourse aujourd'hui, c'est avec Wilfried Galland. Bonjour, directeur adjoint de Montpensier Arbevel. Et à côté de vous, Mabrouk Chetouane. Bonjour.
Bonjour.
Responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis Investment Manager. On a quand même une ambiance ce matin, Étienne Brack, qui est assez différente quand même de la semaine dernière. Parce qu'on a le Nasdaq, donc, qui a eu une séance compliquée vendredi. On va peut-être avoir une semaine hausse des taux. Cet IPO de SpaceX qui arrive. L'ambiance, c'est un jour une ambiance, Wilfried.
En fait, on sent les marchés aujourd'hui beaucoup plus tendus. Tendus parce que effectivement on va tendre le rapport entre la demande de capitaux et l'offre de capitaux. Ça, c'est SpaceX. Tendu sur les prix. On est passé, ça c'était effectivement progressif dans les cours, mais on est passé du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte sur la partie IA. Et on voit bien que tout a un prix, y compris dans les tokens et y compris dans l'intelligence artificielle, qu'en fait tout n'est pas
c'est-à-dire que quand on jongle avec les 1000 milliards, on a l'impression qu'il y a plus de prix.
Exactement, en fait tout n'est pas à la hauteur des rêves qu'on a pu avoir, et donc il y a une espèce de retour à une réalité qui est quand même plutôt de bonne aloi compte tenu des parcours qui sont exceptionnels. On se disait avec Mabrouk avant de rentrer sur le plateau qu'en fait, effectivement, on avait quand même enchaîné les records à la fois sur des valeurs et sur des indices qui faisaient que tout était à la hauteur d'une perfection envisagée qui n'est jamais la réalité des marchés, en fait. Et donc là, on a de nouveau des incertitudes sur comment va se passer l'IPO sur SpaceX avec des règles qui ont été quand même tordues un peu dans tous les sens, avec des prix de l'argent qui remontent quand même très fortement. Et donc, on sait que quand les prix de l'argent remontent, ça veut dire que le prix du futur est en train de remonter. Or, toutes ces valeurs, on achète l'avenir, on achète le futur, on achète SpaceX, on achète l'intelligence artificielle dans l'espace. Est-ce que c'est totalement la même chose de l'acheter avec des taux d'intérêt à 3% ou de l'acheter à 5%? C'est pas la même chose. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être revues dans les modélisations. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais effectivement, ça fait pas mal de volatilité.
On va rentrer, Mabrouk, dans le détail avec SpaceX dans un instant, mais c'est quoi votre regard sur ce changement d'ambiance là en fin de semaine?
En fait, on a un changement de paradigme, et Wilfried effectivement évoquait la rencontre à chaque fois d'une offre, d'une demande. Moi, j'ai envie de dire qu'on a aussi, au fond, la rencontre d'une tendance à l'exagération de marché et une tendance à la sous-estimation de la part des investisseurs. On a vu effectivement à chaque fois que la tech était en capacité de délivrer, donc on l'a vu à plusieurs reprises, même au début d'année, les bénéfices révisés à la hausse, etc. Maintenant, dans le cas de SpaceX particulièrement, il y a quand même des métriques qui questionne, pas qui dérange, mais qui questionne, puisque SpaceX, finalement, c'est la conjonction de plusieurs entreprises, donc Starlink que l'on connaît à travers justement les satellites et donc l'offre d'abonnement, qui est la partie la plus rentable. Mais là où le marché mise énormément, c'est sur Starship, la partie effectivement le lanceur, et puis on envoie plein de choses effectivement dans l'espace. Ça, effectivement, c'est pas rentable du tout, et globalement l'entreprise est valorisée aujourd'hui à 94 fois globalement les bénéfices. C'est absolument gigantesque.
Oui.
Et globalement, même finalement au moment au pic de la bulle IT, on n'avait pas vu finalement des valorisations aussi grandes, et celles qui avaient atteint des valorisations qu'on qualifiait à l'époque de stratosphériques ont disparu. Donc bon, du coup, c'est pas non plus de bon augure. Bon, alors, je pense qu'effectivement le marché a tendance à un peu exagérer en quelque sorte, et qu'on aura des forces de rappel une fois que finalement les choses seront installées. Mais on est effectivement aujourd'hui dans un cosmos où globalement on est à une forme de wait and see. On va voir SpaceX, on va voir les banques centrales par ailleurs. Mmh. On a eu le rapport sur l'emploi, faut le digérer encore. Vous l'évoquiez, la pire séance du Nasdaq depuis assez longtemps, même si on avait enchaîné plusieurs semaines, plusieurs journées de records. Donc là, aujourd'hui, on arrive dans ce moment qu'on qualifie de macro. En quelque sorte, on dit qu'Nvidia, les résultats, c'est maintenant un indicateur macro, en quelque sorte, au même titre que le rapport sur l'emploi, les banques centrales. Donc on a quitté cette séance micro pour rentrer dans cette séance macro.
Étienne, 94 fois les bénéfices pour SpaceX, et on demande aux particuliers s'ils n'auraient pas envie d'investir. Enfin, si vous avez un compte Revolut ou n'importe qui vous permet d'aller sur les marchés, là c'est la folie. Vous êtes bastonné de propositions pour acheter du SpaceX.
Tout le week-end, dans le sens où on est sur la dernière ligne droite, et puis surtout ça donne des idées aux petits concurrents. Hein. Typiquement, vendredi, il y avait des rumeurs qui évoquaient que Meta réfléchissait à faire une augmentation de capital, comme Alphabet la semaine dernière. Ça montre bien que tout le monde souhaite lever de l'argent au moment où l'argent va peut-être coûter plus cher. En tout cas, vous l'avez bien vu sur la séance de vendredi, le marché obligataire met un prix à tout cela. On a un 2 ans américain qui est à 4,2%. En début d'année, on était à 3,4 hein, quand même. Donc, on est sur une remontée significative. Idem sur les taux longs, avec un marché de l'emploi qui est plus robuste qu'attendu. Et puis, on aura la réunion de Kevin Warch la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il y a un consensus qui a du mal à se former sur quelle va être la politique de Kevin Warch, comment ça va se passer sur les remontées des taux. Et forcément, si demain, l'argent coûte plus cher, bah, ça va avoir un impact significatif sur ce secteur de la tech qui a besoin de lever massivement des capitaux.
Wilfried, on ne fait pas du conseil valeur, donc la question, ce n'est pas de dire aux gens s'il faut qu'ils achètent ou pas, mais quand même, ça interpelle le fait que les règles soient tordues pour SpaceX. Ça inquiète quand même.
Je pense qu'il y a effectivement pas mal de choses qui dérangent un peu les professionnels de Wall Street, en particulier le fait que, vous l'avez souligné, on a tordu pour SpaceX les règles d'appartenance aux indices, en fait, en forçant d'une certaine manière toute la gestion passive et la gestion indicielle à acheter du SpaceX directement dès l'introduction, puisqu'ils vont rentrer dans les indices 15 jours plus tard. Donc, quand vous savez que vous avez une valeur qui rentre dans les indices 15 jours plus tard, si vous avez une gestion indicielle, vous êtes obligé, d'une certaine manière, d'acheter cette valeur. Et donc, il y a un certain nombre de mouvements, en fait, forcés par la réglementation, qui va un peu à l'encontre de ce qu'est normalement le marché, c'est-à-dire l'évaluation en toute indépendance des profits futurs avec un certain nombre de risques. Là, d'une certaine manière, on dit vous n'avez pas le choix. Ça va aussi tordre la composition des indices. On va avoir encore plus de technologies à l'intérieur des indices les plus larges. On va encore avoir des différences entre la valorisation des indices les plus forts comme le S&P ou le Nasdaq et tout ce qui vient en dessous. On avait déjà des différences de valorisation très fortes à Wall Street. On va encore rajouter ça. Et donc, il y a cette ambiance un peu de malaise sur cette opération, avec en plus une certaine hystérie de la part de fournisseurs de services financiers.
Mais ça va de Jamie Dimon à Revolut, quoi, sur votre compte particulier. Tout le monde y est, quoi.
Et donc, on sait que ça, quand on a un peu d'histoire sur les marchés, ça rappelle des périodes qui sont pas extraordinaires.
C'était 99.
Exactement. Les périodes.
C'est minuit moins le quart.
Les périodes devenir riche avant que ce soit terminé. Voilà. Donc, c'est jamais très très bon signe. Et les marchés en profite pour justement rappeler que tout a un prix, qu'on a une augmentation, comme Étienne le soulignait, une augmentation des taux d'intérêt, et ça c'est extrêmement important. On va avoir Kevin Warch. Il ne faut jamais oublier que dans les 30 dernières années, à chaque fois qu'un président de la Fed a pris ses fonctions, les marchés n'ont jamais bien réagi. Au début, ça ne se passe jamais bien, parce qu'il y a des changements, et là Warch veut vraiment changer énormément de choses. Et donc ça rajoute du stress encore au marché, c'est-à-dire qu'on a un stress sur le fonctionnement du marché actions et le fonctionnement justement des valorisations. Et on a un deuxième stress sur comment est-ce que l'environnement monétaire, l'environnement de liquidité, l'environnement même de lisibilité de la communication de la Fed va avoir lieu, puisqu'il veut tout changer sur l'environnement de communication. Et ça rajoute effectivement de l'incertitude. On va avoir 15 jours probablement où les marchés vont devoir se réadapter et ouvrir peut-être une nouvelle ère.
Vous êtes un peu inquiétant quand même ce matin, Wilfried. Non, on est minuit moins le quart, une nouvelle crise là.
Non, je ne suis pas aussi finalement inquiet que Wilfried sur deux points notamment. Donc sur la transition banque centrale, effectivement l'arrivée d'un nouveau chairman à la Fed va devoir effectivement impliquer pour les marchés une nouvelle forme d'adaptation.
Sachant qu'il dit lui-même qu'il veut pas, il est pas là pour rassurer les marchés, quoi.
Non, il est là pour faire un job. Il est là pour, entre guillemets, assurer la stabilité financière.
Très clair,
Moi, j'ai cru que c'était son job avant de rassurer les marchés, que c'était le job d'un banquier central.
Ça, c'est learning by doing. On verra bien finalement où va se mettre la focale. Est-ce qu'il va falloir calmer le stress financier ou soutenir l'économie américaine? Il y a plusieurs paramètres en fonction de réaction de la banque centrale. Donc, lisser finalement la période Powell versus effectivement Warch. Donc ça va être le gros challenge. Et puis, effectivement, Wilfried l'a bien souligné. Il veut apporter des changements. Donc, en termes de communication, on sait que Warch n'aime pas la forward guidance, n'aime pas, par exemple, le fameux dot plot, les projections médianes, finalement, de la Fed. Ça, effectivement, il veut s'en débarrasser. On est pour, on est contre. On voit que pour la BCE, avoir un dot plot aurait permis, effectivement, possiblement, de faire une erreur de politique monétaire pour ce jeudi. Mais bon, là encore, c'est un autre débat. Et globalement, l'autre aspect concernant, effectivement, SpaceX, c'est que ça concerne effectivement le Nasdaq, en fait, ce braquage entre guillemets de règles. Ça concerne pas le S&P 500
oui.
qui a.
Ils ont dit non.
Eux, ils ont dit non. Donc, et quelque part là aussi, ça interpelle. Pourquoi effectivement forcer finalement la main des indices? Ça veut dire que globalement l'opération est tellement grosse qu'on ne veut pas, on peut pas se rater là-dessus. Et donc en forçant quelque part la main des investisseurs en disant vous êtes obligés finalement d'en avoir et en mettant finalement du SpaceX tout de suite dans les indices comme le Nasdaq 15 jours après son introduction, ça peut effectivement soulever des inquiétudes et des questions. Donc oui, on est sur un moment qu'on ne peut pas rater, entre guillemets. Eux ne peuvent pas se rater sur l'introduction. Et puis, on a tout ce questionnement autour du loyer de l'argent. Donc, lorsque les taux d'intérêt, finalement, augmentent, ça suscite deux interrogations. Est-ce que c'est parce qu'on a une croissance économique beaucoup plus forte et donc, globalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter? Ou bien, fondamentalement, on a des inquiétudes et on va aller, finalement, avoir ces taux qui peuvent, effectivement, refléter des inquiétudes macro. Donc,
à la fin d'un peu inquiet, quand même.
Mais non, mais alors, nous, on est plutôt, finalement, du camp où consiste à dire, aux États-Unis, on le voit avec le rapport sur l'emploi, c'est solide. Ouais. On a toujours une tendance, et ça, c'est. Et je me souviens d'un échange qu'on a eu avec Wilfried il y a plusieurs années de ça, où on parlait encore beaucoup de hard landing, soft landing, etc. Et à un moment donné, de quoi on s'est rendu compte? Il y avait un no landing aux États-Unis, ça a continué effectivement sans aucun problème. Donc on a toujours cette tendance à sous-estimer la puissance du cycle américain, et là encore, déficit de visibilité à court terme, les marchés vont être en mode wait and see, on va attendre, on va temporiser avant effectivement de voir quelle va être la suite pour le S2.
Justement, ces chiffres américains, Étienne, 172 000 créations de postes, le double de ce qu'on attendait.
Sachant que les chiffres du mois d'avril ont également été revus à la hausse. Donc il y a eu plus de créations de postes de prévues au mois d'avril, mais également au mois de mai, avec certes des destructions dans le secteur de l'intelligence artificielle. Hein, on a vu beaucoup de GAFAM supprimer des postes, mais dans le même temps, vous avez le secteur des services qui continue de prendre le relais. Alors c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde en ce moment, donc vous avez beaucoup de main-d'œuvre en ce moment qui sont recrutés dans l'hôtellerie, la restauration, mais dans le service de la santé, ça recrute toujours. Idem dans les services à la personne. Et in fine, ça a permis d'afficher des chiffres supérieurs aux prévisions et un taux de chômage qui est ressorti stable à 4,3%.
Bon, robuste cette économie américaine, Wilfried?
Alors robuste, et dans le même temps, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir qu'on n'a pas d'augmentation des salaires aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on regarde en détail les statistiques de l'emploi, en fait, en termes de progression des revenus aux États-Unis, on est sur une très très grande stabilité, on est sur le même niveau qu'on avait pré-pandémie. Pourquoi? Parce que effectivement, ce qui crée de l'emploi aux États-Unis, c'est, Étienne l'a souligné, service à la personne, hôtellerie, restauration, c'est pas des endroits. En fait, on a des augmentations de salaire très très fortes. On a des augmentations effectivement de nombre de personnes, mais pas des augmentations de salaire très fortes. Donc, on est sur un rythme qui est extrêmement flat. Ce qui veut dire que les pressions inflationnistes, les tendances inflationnistes de l'économie américaine ne se sont pas déclenchées encore, peut-être, en termes de prix salaire. Et donc ça peut donner l'opportunité à la Réserve fédérale, justement, d'être prudente sur sa politique monétaire, parce que certes, l'emploi va bien, mais ça ne veut pas dire qu'on a cet enchaînement prix-salaire. Ça, c'est effectivement un point que j'ai trouvé très positif.
Pas de hausse de taux à faire dès qu'on arrive.
Voilà, exactement. Ça donne du temps et ça va donner à Kevin Warsh le temps de revoir son mode de fonctionnement, son mode de communication. On sait qu'il veut même changer les indicateurs sur lesquels il va travailler. Hein.
Prenant l'inflation corps, quoi.
Ce qu'il appelle l'inflation, moi j'ai traduit ça par l'inflation signal recalibrée, c'est-à-dire le trimmed mean inflation. Donc véritablement l'inflation, on enlève ce qu'il y a de plus chaud et ce qu'il y a de plus froid et ça nous donne une véritable tendance. Donc c'est publié, je crois, par la Fed d'Atlanta de mémoire. Et donc aujourd'hui c'est à 2,3% cet indice là, c'est pas à 3,2. Donc ça lui donne, en tout cas ça va lui donner le temps, ces statistiques de l'emploi qui sont bonnes sans signaler d'emballement, ça va lui donner le temps d'attendre et c'est un peu tout ce dont on a besoin.
Il nous reste une minute, Étienne, vous nous dites ce qu'on attend pour l'ouverture. Ça tangue un peu, hein, notamment à cause du pétrole qui remonte parce que c'est reparti au Moyen-Orient.
Et les cours du gaz également, qui sont sur des plus hauts 3 semaines, 50 euros le mégawattheure pour le gaz européen, le Brent qui est donc à 97$ et en préouverture des grands indices qui perdent un peu plus d'1%. Alors c'est un moindre mal, hein, par rapport au moins 4% du Nasdaq. C'est vrai que le fait qu'on ait assez peu de valeur technologique en Europe va permettre à l'Europe de légèrement surperformer. Et puis, ça sera intéressant de voir si la vieille économie et le secteur de la consommation surperforment, comme c'était le cas vendredi aux États-Unis. Les Procter & Gamble, McDonald's ou encore Johnson & Johnson ont gagné plus de 2%. Parce que si l'emploi tient, mine de rien, c'est une bonne nouvelle pour la consommation.
Et on suivra également les nouvelles opérations de consolidation, puisque la première banque italienne, Intesa, Meta qui lance une offre de 31 milliards d'euros sur MPS. Là, on a eu Commerzbank la semaine dernière. Là, ça.
Oui, ça commence
c'est
à.
C'est le rapport de Mario Draghi à la lettre.
Oui, on. Peut-être qu'aussi, il faut se précipiter en attendant que le loyer de l'argent soit trop fort.
Toujours le même sujet, le loyer de l'argent. Un grand merci, Wilfried Galland, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Merci également à Mabrouk chez toi.